BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi pile sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et les marchés financiers qui semblent faire abstraction de l'absence d'avancée au Moyen-Orient. Les bourses européennes sont dans le vert et les prix du pétrole sont en recul avec un baril de Brent qui redescend autour des 93$ ce midi. Pour autant, côté iranien, les dernières déclarations n'incitent pas à l'optimisme. Une reprise de la guerre contre les États-Unis est inévitable, décidément. C'est ce qu'assure un haut responsable militaire iranien qui ajoute « Les États-Unis exigent notre capitulation totale et la nation iranienne ne capitulera jamais. » Fin de citation. Et puis dans l'actualité des entreprises, notez cette confirmation de Stellantis aujourd'hui. Le groupe va investir plus d'un milliard d'euros en France pour produire 3 nouveaux modèles de Peugeot électrique et hybride. À partir de 2029, la moitié de cet investissement sera dédiée à la recherche et développement. 40% dans le site de Mulhouse et 10% dans d'autres sites du groupe. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui nous concerne, nous usagers de l'immobilier et du logement, mais qui vous concerne spécifiquement, vous, pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, on va parler de lutte contre le blanchiment dans les métiers de l'immobilier. Oui, c'est important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a des entreprises qui développent des outils pour vous aider, amis professionnels de ce secteur de l'immobilier. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Bah oui, ça y est, on est en juin. La course pour le logement étudiant a démarré. Et en plus, elle va s'accélérer ce soir puisque je crois qu'on a des premiers résultats de Parcoursup à venir. On va parler de ce logement étudiant. On en fait pas vraiment assez, mais comment est-il ce logement étudiant aujourd'hui? Comment sera-t-il demain? Faut-il y investir? On verra ça dans le cadre de notre débat du jour. Mais avant cela, c'est l'heure du Pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Aurélien Zakaius, le patron d'AP Solutions IO et spécialiste européen de LCBFT. C'est quoi LCBFT? Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Bonjour Aurélien.
Bonjour Marie.
Je le disais en préambule, nos amis professionnels de l'immobilier au sens large, ils ont une responsabilité dans cette lutte contre le blanchiment. Et vous, vous allez les y aider grâce à un outil spécifique. Vous nous racontez un petit peu, c'est quoi cet outil?
Oui, alors comme vous l'avez dit, les pros de l'IMO ont une obligation depuis 2009 de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parce qu'on sait malheureusement que la pierre a souvent servi pour recycler des fonds illicites. Alors on peut avoir des signaux forts, hein. Où là, ça va plutôt être le feeling de nos agents IMO qui va plus être un détecteur, comme on a un acheteur pressé ou un acheteur qui ne veut pas faire de négociation malgré un bien immobilier assez onéreux, ou parfois des acheteurs finaux qui ne sont que représentés et jamais présents. Et puis ensuite, on va avoir des signaux faibles, où là, il va falloir profiler les clients avec une agrégation d'une multitude de données, des différentes sources de financement qu'il faut analyser, et puis aussi des montages complexes avec des sociétés écrans, des bénéficiaires effectifs et des dirigeants à récupérer. Et c'est là où nos outils vont pouvoir aider les pros de l'immobilier.
Mais vous allez enquêter, vous allez faire le travail finalement des services d'ordre qu'on peut avoir, nous, à l'échelle de la France, de Bercy par exemple. C'est vous qui allez enquêter?
Non, on ne va pas enquêter directement. Nous, on est vraiment un outil pour faciliter ces obligations par rapport aux pros de l'immobilier. Donc les pros de l'immobilier vont mettre les informations qu'ils ont eues par rapport à leurs clients, à leurs transactions, etc. Nous, on va avoir des algorithmes qui vont pouvoir détecter du blanchiment, du financement du terrorisme, de la fraude, qui va permettre ensuite aux pros de l'immobilier de déclarer un soupçon à Tracfin. Et là, c'est bien sûr les services de l'État, puisque Tracfin, la cellule antiterrorisme financière de Bercy, qui va prendre le relais pour vérifier s'il s'agit vraiment d'une véritable suspicion ou alors s'il n'y a pas de problème vis-à-vis de cette transaction.
Mais Aurélien, j'ai une question. J'ai pas envie de dire qu'on ne peut pas se servir de votre outil, mais enfin, si moi je suis professionnel de l'immobilier et que j'ai des doutes, je peux d'ores et déjà solliciter Tracfin sans avoir à passer par votre logiciel ou votre outil et vos algorithmes. Est-ce que finalement, ce que vous proposez, c'est pas plutôt une façon aussi pour le pro de l'IMO de justifier qu'il va peut-être pas aller au bout de l'opération avec le client, parce que c'est toujours très sensible quand même?
Alors, exactement. Alors, On est d'accord que sur les signaux forts, comme je le disais, c'est plutôt le feeling de l'agent immobilier. Par contre, sur les signaux faibles, si vous n'avez pas un outil, vous serez incapable de d'aller voir toute la chaîne capitalistique, par exemple, de sociétés écrans et ses difficultés de source de financement. Et puis surtout, il y a eu le décret d'avril dernier qui oblige maintenant les pros de l'IMO à démontrer concrètement ce qu'ils ont fait comme diligence. Et là, si vous n'êtes que sur des procédures théoriques ou sur du témoignage oral, et ben là vous n'avez pas de traces écrites et non modifiables que vous pouvez présenter vis-à-vis des régulateurs.
Et j'ai une dernière question, Aurélien. Vous avez des cas particuliers où effectivement le professionnel de l'immobilier, bon, il avait des petits doutes, mais globalement il semblait penser que tout allait bien et que non, votre outil a permis d'identifier ces signaux faibles et il s'est avéré qu'effectivement c'était des réelles problématiques de blanchiment d'argent, par exemple.
Alors malheureusement oui, je ne vais pas vous citer d'exemples très précis, mais en effet il y a plein de cas où on détecte et finalement l'agent sur le terrain n'avait pas détecté notamment les signaux faibles. Ça c'est le point très important parce que un humain ne peut pas tout avoir ces éléments. La force des outils c'est aussi d'agréger un nombre important de données en temps réel pour pouvoir lever des alertes et démontrer qu'il y a une fraude ou du blanchiment derrière une opération.
Et vous avez justement multiplié par rapport aux nouvelles obligations, justement, que vous le disiez, légales, hein, aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier, d'apporter la preuve quand même qu'ils ont véritablement enquêté sur les profils. Vous avez justement de plus en plus de clients. Vous sentez qu'il y a quand même cette envie finalement de se dire je vais déléguer parce qu'on m'en demande toujours plus, moi, professionnel de l'immobilier, et à un moment donné, j'ai besoin de passer à autre chose, quoi, de faire mon métier.
Exactement, on a plusieurs pros de l'immobilier comme clients, bien entendu, et puis surtout, petite exclusivité pour vous, depuis ce matin, nous avons également le groupe IAD International qui a signé avec nous, donc ça c'est aussi un point fort de vous montrer que le leader des transactions immobilières en France fait appel à nos outils surpuissants pour lutter contre le blanchiment et financement du terrorisme.
Ouais, mais c'est vraiment un sujet. Et je sais qu'effectivement, sur les agents immobiliers, que ce soit dans l'immobilier de prestige ou de l'immobilier classique, c'est un vrai sujet pour eux et on leur demande de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et parfois, c'est des métiers qu'eux-mêmes n'ont pas à gérer normalement et à faire un filtre qui est quand même très compliqué à faire, surtout aujourd'hui avec les nouveaux outils. Donc, merci Aurélien pour votre témoignage. Aurélien Zakaïus, PDG d'AP Solutions IO et spécialiste européen, donc LCBFT, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Si, comme Aurélien, vous avez un témoignage terrain à nous apporter, des idées qui nous concernent, nous, usagers de cet immobilier, de ces logements, et vous, professionnels de l'immobilier, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Autre sujet passionnant, mais qui n'a rien à voir, mais qu'on retrouve chaque année, c'est un petit peu notre marronnier. C'est la course au logement étudiant. Et pour en parler, à mes côtés, David Regin, directeur général adjoint de Consulting Group. Bonjour David.
Bonjour Marie.
Et à mes côtés également, Ghislain Pironneau, cofondateur d'Imodev. Bonjour Ghislain.
Bonjour Marie.
Je disais, il y a une date là, c'est vrai que ce soir, on va avoir, je crois, encore une nouvelle série d'étudiants qui attendent les premiers résultats de Parcoursup. Il y en a d'autres qui ont déjà commencé à chercher. Grève, on est déjà en juin. C'est toujours la galère pour les étudiants comme pour tout le monde. Ce segment de l'immobilier étudiant au sens large, parce que j'allais dire logement étudiant, mais maintenant il revêt plusieurs formes. C'est quoi aujourd'hui le logement étudiant? Est-ce que c'est la coloc comme on l'envisageait dans les années 80-90? Qu'est-ce qui est aujourd'hui le logement étudiant, messieurs? Je voudrais que vous me le dessiniez, ce logement étudiant.
Alors, il y a effectivement plusieurs segments différents. On a connu vous l'évoquiez, la colocation qui existe toujours, qui est un des segments du logement étudiant. Vous avez toujours dans le secteur privé le logement libre, c'est-à-dire je vais louer un studio, je vais louer un T1 directement auprès d'un propriétaire. Et puis après, vous avez des résidences étudiantes. Alors, dans ces résidences étudiantes, vous avez différentes typologies. Vous avez évidemment les résidences étudiantes publiques, hein, les crousses,
ouais.
Voilà, qui sont là et qui ont un rôle majeur, hein, dans le logement étudiant parce qu'elles répondent à un besoin. On va le voir, hein, il y a des besoins partout évidemment dans le logement étudiant, mais en particulier pour des étudiants quand même qui par nature n'ont pas beaucoup de revenus. C'est le moins qu'on puisse dire, donc des élèves boursiers, etc. Il en manque énormément. Et puis, vous avez les résidences étudiantes privées, résidences étudiantes classiques, hein, qu'on connaît avec un exploitant, etc., des grands noms aujourd'hui, hein, de l'exploitation de résidences étudiantes. Et puis, vous avez quand même aussi des résidences étudiantes, alors un peu plus premium, qu'on peut appeler éventuellement co-living. On va faire plus de mixité avec des jeunes actifs qui vont peut-être s'adresser plus à des étudiants étrangers sur des secteurs voilà, où il y a une densité très très forte de demandes étudiantes. Donc, on voit qu'on a un panel de solutions qui est relativement important. Il y a le logement des parents. Hein.
Ouais, bien
ça
sûr.
Reste quand même le premier logement des étudiants. Alors, heureusement ou malheureusement, peut-être malheureusement pour
les
étudiants.
Mais non, mais c'est un grand sujet. Et à chaque fois, je repense à Robin Rivaton qui avait sorti un truc à un congrès HLM sur le sujet du logement étudiant qui était passionnant, qui disait c'est assez drôle parce que les étudiants franciliens sont ceux qui restent le plus longtemps chez leurs parents. Est-ce que vous croyez que c'est parce qu'ils adorent leurs parents? Moi je crois pas, c'est parce qu'il n'y a pas de quoi les héberger. C'est ça le sujet, hein,
Alors ce qui est sûr, je crois qu'on sera, évidemment d'accord, c'est qu'il y a un besoin structurel de logement qui est très fort pour les étudiants. Vous évoquiez Parcoursup, je vous donne juste à titre d'illustration. Je me souviens, on avait livré une résidence étudiante à Villeneuve-d'Ascq, banlieue de Lille.
Ouais.
Et à Villeneuve-d'Ascq, quand vous avez Parcoursup qui sort, en 48 heures, vous avez plus un logement, alors que ce soit dans le bon coin pour un logement X ou Y, ou que ce soit en résidence étudiante, tellement la demande de logement, elle est énorme et elle est pas satisfaite en fait.
Mais c'est ça qui est dingue, Gislain, parce qu'il y a de plus en plus, c'est ce qu'on vient de faire là, dire quelles étaient justement ces typologies de logements étudiants. On dirait qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait quand moi j'étais étudiante et encore avant. Et pour autant, on n'a jamais connu une crise d'offres aussi importante qu'aujourd'hui.
Oui. Déjà, il n'y a jamais eu autant d'étudiants. Hein, on a 3 millions d'étudiants sur le territoire français.
Rassurons tout le monde, comme on ne fait plus de bébés d'ici quelques... Non, je plaisante. Hein.
Non, mais c'est pas faux.
Mais c'est un vrai sujet quand même.
3 millions, il y a plus de 400 000 étudiants étrangers. On est l'un des pays en Europe qui accueille le plus d'étudiants étrangers.
Ouais.
Je ne suis pas certain que ça aille dans... Ça va plutôt augmenter, bien évidemment. Et on n'est plus dans des chambres de 12 mètres carrés. Comme vous avez connu, comme j'ai connu. Aujourd'hui, nous, on a construit quand même plus d'un millier de logements. Ce qu'on voit, là, il y aura toujours autant d'étudiants qui vont vivre chez leurs parents. Mais aujourd'hui, le consensus des experts, c'est plutôt de l'ordre de 600-700 000 logements qu'il faudrait construire. Nous avons construit aujourd'hui qu'environ 300 à 350 000 logements. 50-50, 50 dans le social et 50 dans le privé. Donc sur le privé, il y a un vrai potentiel. Par contre, faut pas se planter. Hein, là, on a en face de nous, devant la télé, des investisseurs avertis. C'est toujours la même question. C'est où je vais investir? Le positionnement de ma résidence étudiante.
Ouais, bien sûr.
Il faut vraiment qu'elle soit juste à côté des facs, des écoles, à côté du transport. Et il faut surtout pas se tromper avec l'exploitant. Moi, je suis le promoteur, c'est moi qui choisis mon exploitant. Il faut surtout pas se tromper, hein. Il y a des histoires, hein. On sent bien qu'on arrive non pas sur un marché mature, on arrive sur
un
marché.
On parle d'immobilier géré dans ce cas-là, c'est ça le sujet. Quand on l'a connu au moment du Covid sur ceux qui géraient sur les résidences gérées de vacances, par exemple. Bon, voilà, en fonction de la solidité des reins du porteur, c'est quand même compliqué, quoi. Hein.
Il faut bien construire, mais voilà, il faut être responsable en tant que promoteur, il faut être responsable en tant qu'exploitant. Nous, on a fait le pari toujours de travailler avec des exploitants qui ne font que ça. Ils ne font que exploiter. Je prends le cas de Sergic Résidence par exemple. On a construit 6 résidences avec eux. C'est des gens qui ne font que ça.
Mais ça ressemble à quoi, du coup, dans ces résidences gérées, moi? Moi, ça m'intéresse. Parce que si je veux investir, par exemple, et être propriétaire et mettre en location via un gestionnaire...
Ouais. Alors, la question, c'est à quoi ressemble une résidence?
Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est que des tout petits logements?
Non, on est sur des formats 18 mètres carrés sur les ce qu'on appelle les T1. Vous avez des T1 bis et vous avez même des T2.
Des T2, donc des deux pièces, une chambre.
Voilà, des deux pièces sur 10-15%. Vous avez surtout des parties communes qui ont énormément grandi au fur et à mesure des années. À l'époque, c'était juste les pioles, les unes à côté des autres. Il n'y avait rien. Il y avait quelques cuisines partagées.
Ouais, ouais.
Là, on n'est plus du tout sur ce schéma-là. L'étudiant est indépendant. Il a sa kitchenette, il a sa salle de bain dans ses 18 mètres carrés. Et par contre, ce sont aujourd'hui des étudiants qui sont beaucoup plus en connexion avec les autres étudiants. Il y en a pas mal qui font du télé-learning, puisqu'il y a de plus en plus de multicampus. Vous avez des étudiants qui vont bouger de fac en fac. Donc, ils ont besoin également, ils ont besoin de communiquer entre eux. Donc, en rez-de-chaussée, vous avez la possibilité pour eux de déjeuner, de petit déjeuner. Ils ont la possibilité de faire du sport. Ils ont la possibilité de laver leur linge. Ouais. Donc, on se rapproche, en tout cas, sur les résidences qu'on construit et qu'on commercialise par l'intérieur de Consultim, par exemple. Cette notion de service hôtelier, service para-hôtelier.
Ouais, mais du coup, ça répond pas aussi. Ma question, c'est avec tous ces services, vous avez parlé du co-living. Évidemment, c'est intéressant, cette montée en gamme, quelque part, du logement étudiant qui n'est plus celui qu'on avait auparavant. Mais enfin, c'est aussi une montée en tarif pour les étudiants. On est où aujourd'hui de l'accessibilité du logement étudiant ?
Alors justement, c'est pour ça que c'est intéressant de faire une distinction entre les différentes typologies. La résidence privée, quelle qu'elle soit, classique, je dirais, ou peut-être un peu plus premium, il y a des besoins encore importants, elle s'adresse en fait à qu'une frange des étudiants, ouais. On l'a évoqué, hein, les étudiants, la plupart d'entre eux, ils travaillent quand même aujourd'hui, mais ils ont quand même des revenus assez faibles. Les études coûtent de plus en plus cher. Donc, c'est quand même souvent des étudiants qui sont accompagnés par leurs parents, très souvent, ou des étudiants étrangers qui disposent de bourses particulières et tout, qui vont leur permettre de se payer des logements. Mais c'est vrai que on disait vigilance dans les investissements. Il y a effectivement la question de l'exploitant qui est toujours majeure, hein, en résidence gérée. Il y a celui de l'emplacement et des villes. Bon, on connaît tous les très grandes métropoles étudiantes.
Rennes,
Nantes, Toulouse, ouais. Montpellier, Aix, Lyon, la région parisienne évidemment, etc. Il y a aussi des villes intermédiaires aujourd'hui qui ont peut-être été moins adressées ces dernières années. Je pense à des villes comme Dijon, par exemple, comme Metz. Dijon, c'est 40 000 étudiants, c'est pas rien. Donc là, il y a des vrais besoins, peut-être en termes de taux d'équipement, qui sont même un peu plus faibles que dans des très grandes métropoles. Mais c'est vrai qu'après, l'emplacement est important. J'échangeais il y a peu de temps avec un exploitant qui me disait aujourd'hui on lui propose, parce que c'est vrai que ça attire beaucoup de monde, beaucoup d'investisseurs, des fonciers qui sont un peu loin de tout, quoi, un peu loin des transports et tout. En termes tarifaires, pour répondre à votre question, je sais pas, on peut dire on va être autour de quelque part sur des villes, alors je mets peut-être Lyon, Paris de côté. Pour le reste, on va se situer quelque part entre 550 et 650 euros par mois.
Ouais.
D'accord. Alors, c'est tout compris, souvent.
Oui, donc, avec les abonnements Internet,
ELEC, les services qui sont dedans, etc. Donc, faut bien faire son calcul. Les normes à tout, au-delà du... Alors, il y a le tarif et le positionnement tarifaire par rapport à une chambre en colocation qui doit rester un peu inférieur. Hein. Mais je vois des villes comme Nantes, par exemple, une chambre en colocation, ça peut aller jusqu'à 550 euros. Donc, on n'est pas si loin que ça d'une résidence étudiante. Mais ce qu'offre la résidence étudiante, c'est aussi beaucoup de flexibilité. Parce que dans la consommation des logements étudiants, ce qui a aussi beaucoup évolué, c'est la mobilité des étudiants. Les étudiants, ils font beaucoup de stages, ils font de l'alternance. Ouais. Les rentrées sont un peu moins septembre, juin. Je me souviens, là encore, d'une résidence étudiante à côté d'une grande école de restauration qui me disait, c'est des écoles dans lesquelles vous avez aussi bien des stages l'été que des stages l'hiver, avec des rentrées scolaires qui sont pas toutes
en décalé.
Et la résidence étudiante, ce qu'elle offre vraiment, c'est cette facilité. Vous arrivez avec votre valise, vous vous posez, vous pouvez y rester quelques mois. Donc ça, c'est quand même une évolution qui est importante, encore une fois, dans la consommation. C'est vrai qu'il y a les services aussi. Alors, ça peut faire monter un peu les prix, parce que on voit bien l'évolution. On a
La salle de sport, par exemple, ça ne m'aurait pas été d'une grande utilité.
Alors, c'est pas horrible. C'est pas des salles de sport de 500 mètres carrés non plus, mais c'est utilisé. Il y a des espaces de coworking. Je pense que c'est important pour les étudiants aussi.
Non mais bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros débat quand même sur le co-living, ces résidences étudiantes qui finissent par coûter très cher en réalité. Est-ce que on va pas justement un peu contre-intuitivement bloquer aussi le marché si on monte trop en gamme ? C'est ma question.
Oui, alors la loi contraint quand même les bailleurs, les exploitants, puisqu'ils peuvent par exemple pas forcément impacter l'IRL.
Ouais, l'indice de référence des loyers.
Impacter complètement, c'est souvent limité à 2% par an. Donc il y a quand même des garde-fous. Nous, dans le cadre de notre propre expérience sur les résidences qu'on développe actuellement, on sent qu'il y a une vraie demande également sur certaines villes, puisque nous on travaille que sur l'Île-de-France, sur la résidence sociale, mais avec service par hôtelier. Donc là, je pense que c'est...
Et donc là, on a en plus, on bénéficie des loyers du parc social, pour le coup, voilà, en fonction de notre éligibilité, évidemment.
Par rapport à ce que disait David, c'est vrai qu'on parle 600 euros, ça c'est un prix moyen global sur le territoire en France. Je dirais plutôt sur en Île-de-France, hormis Paris, proche couronne, on est plutôt aux alentours de 700 et on se rapproche des 800 euros. Hein. Sur de la résidence sociale avec service, vous pouvez être à 625, 630, 640 euros. Donc là, on adresse quand même des étudiants qui sont plus dans la difficulté et c'est là qu'il y a un besoin énorme.
Et sur les investisseurs particuliers, parce que là on parle du côté social, mais sur les investisseurs particuliers, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même cette envie d'investir sur ce créneau étudiant? Parce que je plaisantais tout à l'heure en disant qu'on fait moins en moins d'enfants et que finalement, peut-être que le sens de l'histoire, c'est plus d'investir dans les résidences gérées seniors que dans les résidences gérées étudiantes.
Il y a la notion fiscale. Aujourd'hui, vous avez la chance, on a la chance en tant que constructeur exploitant de s'appuyer sur un régime qui fonctionne encore bien.
Le loueur meublé non professionnel.
Voilà, comme vous le savez, il offre aujourd'hui des rendements qui peuvent être entre 4,5 et 5%.
Et puis vous n'avez pas été touché, si je ne dis pas de bêtises, par la réintégration de l'amortissement, c'est ça?
Absolument.
Ouais, exactement, et le Pinel n'existe plus.
Oh, c'est vrai, on n'avait pas remarqué, dis là. Mais là, on a Jean Brun maintenant, vous n'avez pas
voilà,
vu.
Voilà, non mais donc, ça veut dire, à la question, j'ai envie de... Je suis un investisseur qui fait attention à ce qui se passe en ce moment, les bourses, etc. Je vais investir sans trop de risques, investir aujourd'hui dans une résidence étudiante bien exploitée.
Encore une fois, vous faites bien d'insister là-dessus.
Avec souvent, ce sont des baux commerciaux sur 9 ans, sur 10 ans, avec une garantie, puisque le bail, il est signé sur toute cette durée-là, et avec des rendements à 4,5 ou 5%.
C'est ce que j'allais dire, combien? Brut.
Entre 4,5 et 5% brut. Oui,
Mais c'est intéressant ce qu'on dit là aussi sur je m'engage sur 9 ans, voilà, bon, bah, c'est bien, c'est un bail commercial, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière si je dois changer l'usage? Admettons que je ne me trompe pas trop et que ce n'est pas demain la veille qu'on fait des bébés. Et que bah, petit à petit, on va quand même réellement vers un vieillissement de la population. Est-ce qu'il y a une réversibilité envisageable?
Alors, effectivement, il y a, on le disait, on a quand même un bail commercial, en tout cas sur les résidences gérées, qui est un minimum de 9 ans, qui peut être de 10 ans, etc. Donc, qui donne de la visibilité à l'investisseur. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'attire? Au fond, est-ce que ça marche? Oui, ça marche bien. Et je crois que beaucoup d'investisseurs voient très bien ce qu'est une résidence étudiante. Résidence senior, c'est pas forcément intuitif par rapport à un EHPAD, etc. Faut expliquer une résidence de tourisme. Mais résidence étudiante, puis tout le monde finalement est plus ou moins concerné à titre personnel, à un moment ou à un autre, par les études de ses enfants, etc. On reste dans un investissement immobilier. Et là, vous avez raison, c'est qu'on va se projeter à 15 ans, à 20 ans. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur... Déjà, l'emplacement de la résidence, c'est important parce que les 3 millions d'étudiants, toutes les projections de l'INSEE, on reste à peu près à 3 millions d'étudiants. On a une démographie, on a amené de plus en plus les jeunes à faire des études supérieures. On a des taux extrêmement élevés, c'est ce qui explique aussi cette explosion du nombre d'étudiants. Mais c'est vrai qu'en même temps, on fait de moins en moins d'enfants. Et il suffit de voir les fermetures. De classe, et quand vous fermez une sixième, et ben dans 10 ans, c'est autant de moins...
Post-bac. Avant ça, mais sinon ils redoublent.
Vous avez raison. 7 ans. Donc voilà. Donc il faut déjà premier élément. L'idée est quand même dans une résidence gérée, d'une manière générale, c'est la réversibilité est importante, mais c'est vraiment la durabilité en fait de l'investissement avec un exploitant. Bon, donc c'est là où encore une fois je me répète, l'emplacement, le bassin, etc. est important pour la pérennité de la résidence. Après, ce sont des résidences. Alors évidemment, on est tenu par un bail commercial. Il peut arriver que l'exploitant dénonce ce bail. Il peut arriver qu'on trouve un nouvel exploitant. Ça, c'est assez classique, qui va reprendre la résidence. Et puis, parfois, les investisseurs, les bailleurs, les propriétaires vont décider de continuer à gérer. La réversibilité d'une résidence étudiante, elle est quand même très bonne. Vous avez une partie des services qu'on évoquait qui est relativement faible. Faire attention, dans une résidence gérée, vous avez parfois beaucoup de services. C'est pas pareil. Donc, la typologie de logement, c'est du, on l'évoquait, c'est des cellules de 18-19 mètres carrés.
Des cellules, c'est horrible.
Des très beaux studios de 18-19 mètres carrés.
Ça y est, il remet sa casquette de commercial. Voilà.
Et donc, qui répondent parfaitement aux besoins des étudiants. Ouais. Et non, plus sérieusement, la réversibilité, elle est évidemment possible. possible. Ça peut se louer assez facilement. Il y a quand même la question des parties de service hein, qui sont assumées par l'exploitant quand il y a un exploitant. Donc, moi, je dirais que d'abord et avant tout, l'objectif de l'investissement, c'est de rester en résidence gérée. Donc, c'est facteur de vigilance sur l'exploitant. Les modèles économiques, quand même, fonctionnent pas trop mal. Vous évoquiez le Covid. À ma connaissance, il y a quasiment pas eu. Nous, on n'en a pas eu du tout de résidences étudiantes qui ont.
Non, je parlais du tourisme à l'époque. Et donc, d'où l'intérêt, de se poser la question de savoir quelle est la solidité de l'exploitant.
Le modèle économique, quand même, fonctionne, les résidences étudiantes. Les exploitants, il faut évidemment être vigilant, sont devenus, au fil du temps, de plus en plus gros, entre guillemets, importants. Donc, ça marche quand même pas mal, hein, les résidences étudiantes. Donc après, c'est évidemment, oui, se poser la question à horizon 15 ans, quand j'évoquais des fonciers qui se loueraient à Rennes aujourd'hui, si vous avez une tension locative, c'est une ville que je connais bien, j'ai une fille qui fait des études à Rennes.
Elle est en résidence gérée ?
Non, elle n'est pas en résidence gérée.
C'est papa.
Mais parce qu'on s'y est pris évidemment beaucoup trop tard.
Mais c'est vous n'avez pas regardé l'émission.
Il y a des tensions locatives extrêmement fortes. Donc à Rennes, vous pouvez même vous mettre sans doute en deuxième couronne de Rennes. Vous n'aurez aucun problème à la remplir demain matin. La question, encore une fois, elle est à 15 ans, à 20 ans. Rennes restera une grande ville étudiante. Il y a sans doute aucun doute là-dessus. Mais attention quand même au choix. Et pas seulement de la ville, hein, je me répète, parce qu'évidemment on identifie très facilement Montpellier, Paris évidemment.
Mais les dessertes
Les transports en commun, la proximité des campus, du centre-ville, de la gare, parce que les étudiants ils aiment bien aller à la fac, mais ils aiment bien aller aussi au centre-ville. Donc c'est des éléments qui sont importants. On le voit peu dans des marchés qui sont très porteurs. Donc le but, c'est pour ça qu'il faut être bien accompagné, c'est quand même de faire attention à certains éléments, sur une résidence étudiante.
Un dernier mot quand même, parce que le temps file et il nous reste une minute, Ghislain. C'est toujours comme ça dans les experts de l'IMO. On a parlé des étudiants, vous vouliez quand même aborder ce sujet du moment où ça bascule et où on devient jeune actif.
Exactement. Qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes actifs aujourd'hui qui sortent d'école, qui sortent de la faculté et qui se retrouvent à devoir aller à droite à gauche en formation? De plus en plus, on est sur du multisite pour nos jeunes actifs. Ouais. Et le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, l'offre est assez faible. Donc, vous avez des lois assez récentes qui sont sorties, celle du député Huvard en 2025, celle de notre ministre Jean Brun, que je salue, en 2026. L'idée de ces deux lois, c'est de quoi ? C'est de créer des nouvelles résidences qui pourraient d'ailleurs profiter de cette bascule étudiant. C'est ce qu'ils appellent les résidences à vocation d'emploi. C'est permettre à des gens qui sont en mobilité d'aller dans des résidences avec des services en pied d'immeuble et de profiter du statut, le nouveau statut bailleur privé sur ce qu'on appelle le LLI, logement locatif intermédiaire. Donc là, il y a un vrai potentiel là-dessus et c'est ça l'avenir. Il faut savoir répondre, trouver des solutions pour tous ces jeunes.
Il y a plein de cas de figure, effectivement, qu'on a tendance à oublier. Mais petit à petit, ça vient. Regardez, on s'en fichait de la natalité. On a une députée aussi UDI qui fait une proposition là pour un prêt à taux zéro pour relancer la natalité. Donc, on commence à s'intéresser aux personnes âgées, aux étudiants. Ouais. Maintenant, on va se mettre sur les jeunes travailleurs.
Les jeunes travailleurs. Ou la santé. Juste, dernier mot, la santé. Nous, on a créé pas mal de résidences sur des personnes qui travaillent dans le monde de la santé.
Ouais.
Et on crée du logement locatif intermédiaire.
Dédié au personnel soignant.
Un vrai sujet.
C'est répondre à des vrais sujets de notre société. Le logement, de toute façon, c'est la société et ça passe par le logement, de toute façon.
Les besoins.
Merci à tous les deux, Ghislain Pironeau, cofondateur d'Imodev, et David Regin, directeur général adjoint de Consulting Group, d'avoir été avec nous sur BFM Business dans les experts de l'IMO. Je reviens demain à l'heure de votre déjeuner.
Merci.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.